Bonjour et bienvenue à la leçon sur interagir avec l'ordinateur. Septième leçon, c'est la communication médiatisée, concevoir les systèmes collaboratifs. Alors, comme vous vous souvenez, on a les utilisateurs dans le boucle d'interaction et on travaille toujours avec un ordinateur, mais pas seulement un ordinateur, on a souvent plusieurs ordinateurs. Et on a aussi les objets physiques, comme on a entendu la semaine dernière, pour les interfaces tangibles. Et aussi, il y a l'environnement, et on peut faire la réalité réelle et virtuelle et la réalité augmentée. Mais avec tout ça, il faut aussi considérer le fait qu'il n'y a pas seulement un seul utilisateur, mais souvent plusieurs. Et il faut se souvenir que nous avons plusieurs relations possible avec les ordinateurs. On peut les traiter comme un outil. Moi, je fais quelque chose, je contrôle. C'est comme avec le marteau, là. Ça peut être aussi deuxième personne. Ça, c'est donner, déléguer les tâches au système. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. On va parler de ça la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va parler de cette relation comme l'ordinateur comme un médium de communication, avec un moyen pour plusieurs personnes de communiquer l'un avec l'autre. Alors, il faut voir que nous sommes les animaux sociaux, et le problème, ce qu'on a, c'est que la plupart des ordinateurs étaient conçus pour les individus. Alors, l'interaction humain-machine pose la question comment on peut concevoir des systèmes qui sont pour plusieurs utilisateurs à la fois. Alors, combien d'utilisateurs? Alors, ça dépend de combien de personnes. On peut faire les choses pour deux personnes, une paire, qui travaillent ensemble. Et on peut aussi travailler avec les petits groupes et aussi avec les grandes foules, beaucoup de monde. Et il y a plusieurs types d'interactions, de systèmes interactifs qu'on peut faire. Il y a les réseaux sociaux intimes, ça veut dire pour deux personnes, juste eux deux. Il y a la messagerie instantanée, bien sûr, et les appels vidéo, par exemple. Pour les petits groupes, on a quelque chose qu'on va parler en quelques minutes, un media space. Édition partagée, qu'on partage un document, les conférences vidéo que tout le monde a utilisées pendant la pandémie. Et aussi, il y a des choses à grande quantité de personnes, ça c'est les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le crowdsourcing, ça c'est par exemple Amazon Turk qui demande à plusieurs utilisateurs de gérer des questions de recherche ou de marketing ou tout ça, et aussi il y a toutes les communautés virtuelles. Alors, quand on parle d'activité de groupe, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut être juste la présence partagée, nous sommes tous dans la même salle, mais il y a aussi des gens qui sont présents à distance. Et on peut faire des réunions, ça veut dire communiquer face à face avec un début et un fin, ça c'est une réunion, ou on peut faire la co-création de quelque chose, communiquer pendant le travail sur un artefact partagé. Alors pour faire ça, on a plusieurs types de catégories. Il y a communication, échange d'informations, collaboration, utiliser un artefact partagé et se coordonner, ça c'est organiser les activités. Et je vais parler d'un série de projets, ce qu'on a fait pendant des années, plus des exemples historiques. Alors, pour communication, la question c'est, il faut réfléchir un peu quand. Alors, l'exemple ici, c'est, on peut parler en personne, et ça c'est une conversation en même temps, même lieu. Mais, avec un peu de technologie, un téléphone, on peut parler en même temps, mais en lieu différent. On peut aussi travailler en temps différé et communiquer en temps différé dans le même lieu. Ici, on peut mettre un post-it ou un note pour dire que je reviens bientôt. Et là, on peut aussi utiliser une technologie, une lettre, pour le temps différé et lieu différent. Alors, chaque catégorie a des conséquences différentes et donne, pose des questions pour l'interaction un peu différentes. Alors, Johansson, en 1988, a proposé cette matrice spatio-temporelle pour regarder des choses qui sont synchrones ou asynchrones, colocalisées à distance, et ils ont fait cette catégorisation des systèmes interactifs. Alors, si on regarde les systèmes de communication commerciale, ils ont trois modèles possibles qui sont derrière tout. Si on veut ajouter la vidéo au système qui existe déjà, on peut prendre comme modèle un téléphone. Alors là, ça peut être l'interaction spontanée, on peut juste appeler quelqu'un. Ça peut être formel ou informel, et il y a toujours un début et un fin. Et si on veut augmenter ça, on ajoute la vidéo, et maintenant nous avons vidéo sur le téléphone portable, mais c'est le même modèle derrière. Et si on regarde l'historique, le téléphone a été inventé par Alexander Graham Bell en 1876. Et à peu près 5 ans plus tard, ils ont créé le téléphone avec la vidéo. Ça, c'est Walter Gifford, qui était le président de AT&T à New York. Et il a regardé Herbert Hoover. C'était avant, il était président des États-Unis. Mais à Washington, D.C. Et là, c'était le premier téléphone avec la vidéo. Et la première fois que c'était commercialisé, c'était encore 50 ans plus tard, 40 ans. Ça, c'est le Picture Phone dans l'exposition universelle à New York, en 1964. Et le problème là, c'était un truc tout petit, très lourd. Et en fait, c'était merveilleux comme l'avenir, mais pas vu comme quelque chose que les gens envie de faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup, beaucoup de choses, et c'est assez récent, ça fait 10 ans, peut-être plus. Pour, par exemple, Skype, ça c'est plus comme 20 ans, et FaceTime, Apple, mais il y a plein de possibilités pour mettre la vidéo sur les appels téléphoniques. Il y a un autre modèle qui sort de ce qu'on fait dans le monde physique, ça c'est la réunion. Et ça, c'est l'interaction formelle, planifiée, avec aussi un début et un fin. Et on regarde là, on peut ajouter la vidéo pour faire une visioconférence. Alors, historiquement, ils ont investi beaucoup d'argent sur les salles de conférence, vidéoconférence dédiées, par ajouter une grande écran avec les gens et prendre des images de chaque personne. Et le problème, c'est que c'était très cher. Quand j'ai travaillé à Xerox PARC dans les années 90, ça a coûté 150 000 $ ou livres, pour faire un système comme ça. Et le son n'était pas très bien, l'interaction était limitée, et il y avait beaucoup de problèmes avec l'interaction entre les gens. Alors, il y avait en Angleterre, il y a quelque chose qui s'appelle University Challenge, et l'idée, c'est qu'il y a deux groupes côte à côte et ils sont en train de se battre et c'est, ça crée un système pas très confortable. Alors, si les gens se connaissent déjà, ça marche bien, mais s'ils ne se connaissent pas, ça crée des problèmes. Et nous avons essayé d'utiliser ce type de technologie avec les gros problèmes quand j'étais à Xerox. Alors, il y avait plusieurs alternatives proposées. Par exemple, ça, c'est un système de Abby Sellin et Bill Buxton qui a été fait à Toronto. Il s'appelle Hydra et l'idée, c'est chaque utilisateur est représenté par un mini écran interactif et on peut mettre les écrans autour de la table et on peut interagir avec les gens dans une manière beaucoup plus naturelle.
In this tape, we show a novel video conferencing system that addresses multi-party meetings. The intent is to simulate as much as possible a four-way roundtable meeting by taking advantage of cues and properties that are present in face-to-face meetings.
The traditional method of supporting four-way video conferencing is to partition a single monitor into four quadrants, each of which is occupied by one participant. This means that if I'm talking to three other people, on one screen I see each of them in addition to myself. One of the problems that results from such a configuration is that the visual cues of gaze and head turning are no longer present. In face-to-face meetings, these cues play an important role in regulating the flow of conversation. Gaze, for example, provides important feedback on which communications are being attended to and is known to play a role in communicating the nature of interpersonal and status relationships.
Our approach is to place a camera, monitor, and speaker in the locations that would be otherwise occupied by each of the remote participants.
We've set up four rooms, one for each participant. Remote participants are seen through their own set of video equipment. So, for example, in my office, I see the person across from me through this monitor, and they see me through this camera, and I hear them through this speaker. Similarly, for the person to my right, there's a monitor, a camera, and a loudspeaker, and to my left. The camera, monitor, and loudspeaker.
Je pense que vous avez l'idée. Je vais arrêter là, mais c'est pour, juste pour dire que toute cette coordination naturelle, ce qu'on a dans une situation où on est physiquement ensemble, disparaît avec cette série d'images qu'on voit. Il y a aussi des choses, par exemple, ça c'est de Willow Garage à Menlo Park en Californie. Et l'idée, c'est qu'on peut mettre l'écran et la caméra mais dans un robot qui bouge et on peut mettre les gens à distance physiquement dans la même situation. Et par exemple, ils peuvent participer dans une conférence ou être assis et c'est le même concept. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a toute la technologie possible pour faire ce genre de choses, mais on ne le fait pas. En fait, on est toujours dans le Zoom ou Baby Collaborate. Pendant la pandémie, j'ai utilisé, je pense, une quinzaine de systèmes différents et ils sont tous dans le même modèle. Il y a toujours un début, un fin, c'est assez formel. Chaque personne regarde l'ordinateur et la caméra juste en face d'eux et c'est, ça casse l'interaction. Aussi, juste, il faut faire attention, il y avait un avocat qui travaille avec l'Union européenne qui nous a dit que Baby Collaborate, qui est IBM, utilise toutes les conversations ici pour aider leur système d'intelligence artificielle. Et j'imagine que ça, c'est le cas avec les autres aussi. Alors, ils sont pas juste, ils sont gratuits, mais ils sont utilisés pour capturer vos infos et de vous mettre dans des cadres assez limités. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'il y a des autres possibilités? Alors, ça, c'est la réunion. Et ça, c'est ce qui se passe au travail, quand on est tous physiquement ensemble. Il y a les machines à café, c'est des choses non planifiées, spontanées, ouvertes. Alors là, ça donne l'exemple de ce qu'on appelle une rencontre fortuite, excusez-moi, interaction informelle et spontanée. Et voilà, et on peut ajouter la vidéo pour augmenter cet espace naturel. Alors ça, c'est dans une situation où on est dans le même temps, mais on veut créer cette même interaction dans les lieux différents. Alors, le premier système fait comme ça, c'était un système créé par des artistes entre New York et Californie, et Lincoln Center à New York et Century City à Los Angeles. Et ils ont fait un grand écran avec des caméras pour capturer la foule. Et les gens sont arrivés, ils ont regardé le système et ils sont en communication live, en direct, pendant 3 jours. Et après un jour, les gens ont commencé à dire « je vais vous rencontrer sur l'espace ». Et c'était une grande réussite. Et tout le monde a réalisé immédiatement que c'était un truc interactif et live. Ils ont bien interagi avec, même les gens inconnus.
In 1980, artists Kit Galloway and Sherry Rabinowitz placed life-size video displays at the Century City Mall in Los Angeles and Lincoln Center in New York. They connected them using a satellite link, sculpting a hole in space. At first, passers-by were unsure what was happening.
Who are we talking to? Are they actors?
Are they actors?
They look like young people in the show.
They're just people like you and me.
My God, it looks like Chorus Line having a little lunch break.
Ça c'est la différence entre New York et Californie.
How did you get here?
They're probably
just walked.
No, not really.
They're in New York.
They're in New York? I'm in Los Angeles, right?
Are you?
Yes.
Galloway and Rabinowitz showed that rich human communication was possible over a high-speed link. They showed that size and bandwidth do matter.
Je vais arrêter là parce qu'il y a plein de vidéos et des choses, mais ça, c'était l'inspiration pour le concept d'un media space. Et ça, c'est, on revient à Xerox PARC dans les années 80 avec Stoltz et Harrison. Et en fait, ils avaient un groupe de recherche. La plupart des membres sont en Californie, mais il y avait un petit groupe qui sont partis pour l'Oregon, assez loin. Et ils ont créé un espace permanent. C'est important, c'était une liaison audio et vidéo permanente, c'est pas début-fin, mais permanente, avec les zones communes de bureau. Ça, c'est l'espace de café, l'espace détente. Et en fait, les gens ont visité l'un l'autre et tout ça, et ça devient difficile pour eux de se souvenir s'ils étaient là physiquement ou à distance. Ça veut dire, moi, je sais où je suis, mais quand j'ai vu quelqu'un d'autre, est-ce que c'était en personne ou à distance? Je ne me souviens plus la semaine après. Alors, quand j'étais à Xerox PARC à Cambridge, en Angleterre, on a créé quelque chose qui s'appelle Rave Media Space un petit peu plus tard. Et ça, c'est un bâtiment avec les gens. Ils sont dans le même bâtiment, mais chaque étage avait des pods, les espaces séparés, et avec un grand couloir au centre, et c'était très difficile pour nous de se rencontrer, qui est mauvais pour un espace de recherche. Alors, on a créé ce système où chaque bureau a son écran et caméra, mais regarde, ça c'est où je travaille, ça c'est l'espace de travail, et ça c'est à côté. C'est un lien permanent, mais c'est périphérique. Je regarde pas les yeux de quelqu'un, c'est là. Je peux tourner et regarder, ça devient naturel, mais c'est comme il y a quelqu'un qui partage mon bureau à côté. Et on a fait plusieurs choses parce qu'on a habité dans cette media space pendant des années. Et ça change vraiment la conception de comment on peut interagir avec ce genre de choses. Il faut jouer avec le niveau d'engagement. Par exemple, je peux faire quelque chose qui s'appelle un office share. Ça, c'est j'ai quelqu'un, tout le monde peut voir qui est dans l'autre bureau. C'est comme les bureaux avec les portes ouvertes. On peut faire un appel court où c'est normalement vide et après il commence et je peux faire un appel avec vidéo et après il s'arrête. Et je peux aussi faire un coup d'œil. Je peux juste faire une glance, regarder dans l'espace pour voir si quelqu'un est là ou non, mais pas vraiment les observer, juste voir s'ils sont là. Et il y a toutes les questions de contrôle, de confidentialité, qui contrôle quoi. La solution, ce qu'on a trouvé, c'est imposer la symétrie. Si je peux vous voir, vous pouvez me voir, mais pas seulement l'un ou l'autre. Et dans ce système-là, il faut autoriser chaque appel. Ce qui est un peu encombrant, mais en même temps, ça garde la vie privée. Il y a un autre espace, ça c'est maintenant, on revient à Toronto, ça c'est Bill Buxton et les gens qui ont fait Hydra. Abby Sellin était à Europark. Après, bon, il y a toute une série entre Xerox PARC, Toronto et nous en Angleterre. Et là, ils ont pensé pas sur le côté, la personne qui gère des choses qui arrivent, mais quelqu'un qui crée la métaphore d'une porte. Et si la porte est ouverte, ça veut dire n'importe qui peut arriver et me regarder. Si c'est ajar, on peut regarder rapidement, mais pas m'observer. Si c'est fermé, c'est terminé, mais je peux faire un appel vidéo. Et si c'est verrouillé, il n'y a pas de coup d'œil et pas d'appel vidéo, je suis en train de travailler, il faut arrêter. Alors, il y a plein de leçons qu'on a apprises avec les media space pendant des années d'utilisation. Et en fait, ça remet en cause le modèle du téléphone qui doit toujours interrompre l'interlocuteur. Et l'idée qu'il faut avoir un début et un fin, peut-être il y a des situations où on va un lien permanent. Et aussi le fait qu'il faut trouver les moyens de négocier les appels. Dans les entreprises, il y a souvent le rôle d'une secrétaire qui est la personne qui décide qui peut parler avec le boss ou non, le patron. Mais là, il faut gérer tout ça vous seul. Et aussi la communication à long terme. Moi, j'ai partagé un bureau pour 2 ans avec Bill Gaver et j'avais 2 personnes dans mon groupe. Il y avait Paul Durish et Vittorio Bellotti qui a aussi partagé leur bureau. Et en fait, ce qui s'est passé, les gens qui veulent parler avec Paul, par exemple, peuvent arriver dans mon bureau pour voir, ou excuse-moi, je veux regarder Paul, je vais dans le bureau de Victoria pour voir Paul et tout. Alors, on a cassé tout l'espace sur plusieurs étages par le fait qu'on a compris qui a partagé les bureaux avec qui n'était pas lié avec le monde réel. Bon, c'était un système assez complexe, tout est analogique, ça a coûté très cher. Alors, je comprends pourquoi c'était pas possible dans le monde réel à l'époque. Mais maintenant, la technologie est très simplifiée et le problème, c'est on reste toujours avec ça. On a tout le hardware et le logiciel possible pour faire ce genre de choses facilement, mais c'est comme ils ont oublié toutes les leçons qu'on a apprises pour faire les media space. Et voilà, on reste sur le chat vidéo et des vidéoconférences. Alors, maintenant, je vais traverser du monde du travail au monde contexte familial. Parce que jusqu'à un certain moment, ça a coûté trop cher pour faire autre chose que le travail. Mais dans la fin des années 90, avec la loi de Moore, des choses deviennent assez bon marché et c'est possible de considérer cette technologie pour les familles. Alors, on a créé un projet ici en France, Interliving, avec nos collègues en Suède et aux États-Unis. Et notre but, c'était de travailler avec les familles distribuées. Et on a regardé la communication entre 7 familles distribuées, avec 2 ou 3 foyers chacun, et avec plus de 70 participants en France, Suède et les États-Unis. Et c'était l'approche que j'ai parlé dans le 3e et 4e leçon, participative, pluridisciplinaire. Et le but, c'était d'aider les gens de rester en contact avec leur famille. Ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas commencé avec la technologie. On n'a pas dit quelle technologie a créé. En fait, ce qu'on a fait, c'est quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie pour rester en contact avec eux. Et il faut dire qu'on a choisi les familles qui sont déjà très proches. Ce n'est pas les gens en train de faire une rupture ou quelque chose, c'était les gens qui veulent vraiment rester en contact avec eux. Et on fait la conception participative, observation, entretien, atelier de conception, comme ça. Ça, c'est Michel Baudouin, l'enfant, qui est un peu plus jeune là. Sonde technologique et les prototypes qui marchent. Ça veut dire les prototypes qu'on peut mettre dans leur maison, leur domicile. Et il y a plusieurs choses à réfléchir quand on fait ce type de technologie. Il faut comprendre comment faire des choses qui sont simples à utiliser, esthétiques. Ça, c'est le vrai foyer de l'un des familles, une famille de musiciens. Et esthétiquement, ça doit être quelque chose. Ça ne peut pas avoir des tonnes de fils et des choses moches. Ça doit être quelque chose d'intéressant. La connexion doit être simple. La connexion doit être ciblée à quelqu'un d'autre, à notre foyer, les autres membres du famille, et pas n'importe qui. Il faut avoir l'interaction directe ou périphérique. Et si on crée des métaphores, il doit être compréhensible. Alors, l'idée, c'est vraiment de se contacter, se concentrer sur les contacts permanents entre les membres du famille. Alors, ça, c'est le projet. Et en fait, quand j'ai dit on fait la conception participative, ça, c'est mon fils. Et on a vraiment travaillé avec notre famille et leur famille ensemble. Et ça, c'est les familles qui ont pris les photos avec leur permission. Ah, ça, c'est une famille en Suède, quelqu'un qui coupe les cheveux. On a donné les caméras aux enfants, on a fait des ateliers avec eux. Et on a demandé à eux de faire les petites storyboards pour envisionner des choses. Ça, c'est les caméras qu'ils ont utilisées pour prendre des images. On a fait des ateliers, par exemple, avec les grands-parents et les enfants, toutes les mères, tous les pères, ou les familles ensemble, ou les familles suédoises avec les familles françaises. On a fait un truc à Stockholm et un truc à Paris avec eux, avec pas mal de traductions en anglais parce qu'il y avait peu de gens qui parlaient français et suédois. Et voilà, c'était juste toute une série d'activités pour concevoir des choses. Ça, c'est deux jumeaux qui essaient de faire communication entre eux. Et voilà, imaginez les contacts avec les amis en Australie. Et voilà, ça, c'est le prototypage en papier, ce qu'on fait. Et à la fin, on regarde, par exemple, ça, c'est les mères. Et ce qu'on a vu, c'est que les mères sont les chefs de coordination pour la famille. Les enfants sont plutôt sur la communication avec leurs meilleurs amis. Et les personnes, les grands-parents sont très intéressés avec les liens avec les petits-enfants. Alors, on crée toutes les choses comme ça. Alors, le problème, ce qu'on a, c'est qu'on a dit qu'on ne va pas commencer avec la technologie, on va essayer de créer les technologies qui n'existent pas encore. Et on va comprendre comment les gens vont utiliser les systèmes dans leur contexte réel. Alors, comment le faire? Alors, on a créé cette idée d'un technologie probe. Et ça, c'est un technologie probe, un message board. Et ça, c'est le timeline. On a expliqué comment on peut travailler avec des gens dans le temps. Et chaque technologie probe, ce n'est pas un prototype à évaluer dans la maison. En fait, c'est une source d'inspiration pour nous et pour eux. Il y a trois buts. On veut concevoir des choses et inspirer les idées nouvelles avec quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui existe maintenant, mais c'est juste un prototype, à inspirer des choses qui peuvent arriver dans l'avenir. Aussi, il faut le construire, il faut que ça marche. Et pour ça, on teste la technologie dans les situations réelles et on apprend plein de choses qui sont très importantes, qui sont difficiles à voir dans un laboratoire. Et aussi, on fait l'analyse de données parce qu'on capture les données des utilisateurs pour comprendre ce qui se passe. Alors, je donne quelques exemples des choses qu'on a fait. Première chose, ça c'est en temps réel, lieu distant, et c'est un système qui s'appelle Mirror Space. Et l'idée, c'est qu'on peut gérer le niveau d'engagement et aussi la vie privée avec le flux d'images. Alors, si je suis loin, ça c'est l'écran, si je suis loin, je suis flou. Et quand j'approche, je deviens de plus en plus net. C'est très simple. Et alors, ça c'est quelques exemples. Alors, ça, c'est l'un des... On travaillait avec deux designers qui viennent du Royal College of Art. Ça, c'est Heiko Hansen. Et il montre que quand il approche, sa main devient nette et on peut le voir. Alors, approcher, ça veut dire je veux communiquer avec vous. Et ça, c'est Helen Evans. aussi du Royal College of Art. Et elle montre comment faire la communication entre les deux. Et l'idée, c'est que les images sont superposées et c'est naturel, les gens jouent avec. Alors, on a créé une série de prototypes. La raison que je montre cette image, c'est parce qu'on était un peu choqués par les artistes, parce qu'ils n'ont vraiment aucun problème de faire un trou dans un écran très cher. Pas de problème pour nous, côté technologie, ça c'est un peu « ah, non », mais ils ont fait. Et après, on a dit « mais tout le monde va regarder ce truc moche au centre de l'écran, parce que dans l'image, on peut voir. » Mais en fait, personne ne l'a vu. Parce que si je regarde une image de moi-même et une image de quelqu'un d'autre, je ne vois pas la petite caméra, je vois la personne. Alors, c'est intéressant, cette expérience. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut apprendre quand on est là. Alors, on fait toute une série des expositions. La dernière, c'était au Centre Pompidou. Et l'écran est là. Et aussi de l'autre côté. Et c'est juste le public qui peut approcher et voir. Et ce qu'on a vu, c'est que les membres d'une même famille essaient de jouer avec les images. Ils sont bien avec ça. Et ils découvrent, comme on a vu dans le Hall in Space, cette merveille. Ah, ça, c'est moi. Ah oui, je deviens net. Ah, c'est cool. Et aller autour et faire quelque chose avec un autre membre de famille. Mais si c'est deux inconnus, l'un avec l'autre, il fait ça. Il ne veut pas mettre leur image sur l'image de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors, c'est vraiment intéressant de voir...
Presence installation that merges together multiple video streams from remote locations.
Alors,
in the first public showing of the work, two mirrors were connected to each other.
Voilà. Et on voit comment il joue avec l'image. Il faut que je... Alors, ça, c'est quelques exemples qui viennent de l'exposition à Beaubourg, au Centre Pompidou. Ça, c'est deux personnes qui sont passées dans l'autre côté. Et après, il a réalisé que, ah, je peux aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui commence à comprendre. Il vient, et maintenant, c'est les deux. Ils mettent leurs images ensemble. Et ils jouent avec... Souvent, ils mettent le nez sur le nez ou essayent de manger l'autre personne. Voilà. Et là, c'est juste un autre exemple où les gens essaient de mettre leur visage exactement dans le même espace. Et c'était intéressant parce que les gens, le soir, qui a nettoyé les choses, a joué avec le système aussi. On avait toutes les données. Voilà. Alors, on peut aussi regarder les situations où le temps est différé et le lieu est différé. Et ça, c'est un système qu'on a fait avec... ça, c'est un système de zoomable interface dont j'ai déjà parlé. On a travaillé avec Ben Peterson, qui était le concepteur de Pad++. Mais l'idée ici, c'est deux tablettes interactives avec les grands-parents et les enfants. Et l'idée, c'est qu'on mette juste les petites notes, les post-it, avec quelques caractéristiques. C'est un lien permanent. Toujours, c'est juste dédié à ça, fait pas d'autre chose. Et je peux mettre un note, je peux le voir en temps réel, mais aussi l'idée c'est que je le laisse. Et en fait, c'est une interface zoomable, on peut regarder, faire grand, mais petit. Et il y a un ordre chronologique où je choisis, je peux réorganiser des choses. Et après un certain moment, les choses disparaissent. Sauf si je décide de garder des choses. Et on a vu que les notes disparaissent avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont trouvé les moyens de faire les jeux ensemble, de faire des choses. C'était vu comme un système en temps différé, mais ils ont utilisé aussi comme un système de jeu ensemble. On a aussi fait un système qui s'appelle Video Probe. Et là, c'est avec la vidéo, nous avons une caméra vidéo, mais pas... est aussi connecté en permanence entre deux foyers. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir une image tout le temps, mais de capturer les images si je ne bouge pas pendant 3 secondes. Ça veut dire, sans mouvement, une image. Ce qui est impossible pour les très jeunes enfants, mais le reste du monde, ça marche. Et l'idée, c'est que je peux prendre des images explicitement ou implicitement, et après, je peux naviguer avec les résultats. Alors, ça, c'est un exemple de... Alors, il y avait la caméra qui est séparée. C'est un petit webcam lié avec, et il peut... Et regarde cette carré qui a... C'est élargi, ça c'est pour dire je vais prendre une photo après 3 secondes. Alors je peux bouger si je veux, je ne veux pas que le système prenne mon photo, mais je peux aussi rester rigide devant et le système va prendre cette photo. Et maintenant il est en train de regarder les résultats. Voilà. On a installé les systèmes dans les foyers différents pendant un mois ou 6 semaines. Et pour faire une étude longitudinale. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est un système qui doit marcher dans les maisons très différentes. Ça, c'est les adultes avec les enfants. C'est un frère et une sœur avec les enfants de même âge, adolescents. Et là, c'est deux sœurs avec les tout petits appartements à Paris. Et il faut faire quelque chose qui marche avec tout ça. Et chaque famille décide où se mettre. Et ils ont créé des choses, par exemple, ils ont créé un système où ils peuvent faire des messages l'un avec l'autre. Et aussi, il y avait un micro-résumé de la journée. C'est toute une collection d'images pendant la journée. Et pour voir ce qui s'est passé avec l'autre personne ou l'autre famille, on peut le regarder rapidement. Alors ça, c'est un exemple de famille Violette. Ça, c'est les deux sœurs à Paris. Et c'est juste sa vie. Et sa sœur a beaucoup apprécié ça parce que dans une minute ou moins, elle peut voir tout ce qui s'est passé avec sa sœur pendant la journée. Toutes les choses qui l'échappent. C'est beaucoup plus intime. Mais on veut seulement avoir ce genre de choses avec quelqu'un que je connais bien. Ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est... toute sa journée. Voilà. Alors, on a utilisé les choses qu'on a apprises, ça, pour travailler avec les personnes âgées. Et l'idée, c'est d'aider les gens à rester plus longtemps dans leurs appartements ou leurs maisons. Et on a travaillé avec... on a observé des choses. On a fait des interviews dans leurs maisons. Et au début, on a pensé que l'idée, c'est de faire quelque chose comme un vidéo probe avec eux, avec les images tout le temps et un lien avec la famille à distance. Mais en fait, pendant l'un des interviews avec l'un des femmes ici, il y avait 4 veuves qui a habité à Paris, presque. Et ils ont vendu leur grande maison, ils sont dans les petits appartements et elles veulent rester en contact avec les autres. Alors, elles ont créé un système où chaque fois, à chaque matin, l'un des 4 sonne à la porte pour dire on va aller faire un café, faire quelque chose. Et ça a créé un réseau social local avec les amis, mais pas avec la famille à distance. Et on a décidé d'essayer d'augmenter ça. L'autre chose à dire, c'est que pour elles, un vidéo en permanence, ce n'est pas intéressant. Il ne peut pas se regarder sur le... Les jeunes aiment regarder les vidéos d'eux, mais pas elles. Et l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose avec la surveillance, le Big Brother, mais faire quelque chose qui les aide à rester en contact de communication avec. Alors, on a créé des connexions permanentes entre des gens, mais dans la forme d'un horloge. Comme ça, il s'appelle un marker clock. Il fait 2 choses très simples. Il a 2 lignes, une par une personne, un utilisateur, et cette partie, c'est dans l'autre, pour l'autre personne. Et on a un capteur de mouvement qui donne un niveau d'activité entre très important et presque rien. Ça, c'est blanc. Alors, ça veut dire qu'il n'y a personne, et après, quelqu'un arrive et il y a plein d'activités. L'autre chose, la personne peut aussi taper sur l'horloge pour laisser une petite marque. Et les gens, ils ont créé plusieurs systèmes pour communiquer l'un avec l'autre. On peut faire ça et montrer que ma ligne devient très fort, foncée, où je ne peux pas bouger, je peux voir. Alors, je comprends comment ça marche juste en utilisant. Il n'y a aucune méthode d'instruction. Et les gens, ils ont créé leur motif de message. Comme j'ai expliqué dans une autre présentation, il y avait quelqu'un qui avait son anniversaire de 76 ans. Et ce qu'elle a fait, c'est son collègue a tapé, attendu 10 minutes. Elle a fait ça 7 fois et après, elle a tapé chaque minute après. Et le résultat, c'est un pattern de 76 sur l'horloge. Mais il y a plein d'autres choses qu'ils ont fait. Alors, maintenant, on commence à parler de ce qu'on appelle les réseaux sociaux intimes. Ça, c'est comment rester en contact avec les proches distants de façon asynchrone. Et on a quelques exemples. Ça, c'est un système où on a travaillé avec une petite start-up sur le projet ICTV. Et on a utilisé cette idée de vidéoprobe pour capturer le mouvement, mais transformer dans une bande, mais maintenant, ce n'est pas dans une horloge, mais une bande comme ça, et augmenter avec les images et les textes. Alors, l'idée, c'est de faire ça. Ça, c'est, et j'utilise, ça, c'est de mon fils pour avoir la permission. À l'époque, il a 27 maintenant, alors ça fait longtemps. Mais l'idée, c'est qu'il peut capturer comme toute la journée, qu'est-ce qui se passe. Et il a ça. Et il montre avec son ami, et c'est un mélange des deux foyers. Et ça, c'est une simulation de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça marche? Oui. Alors l'idée, la petite entreprise a fait les set-top box, et l'idée, c'est qu'on peut ajouter quelque chose avec... Ça, c'est la télé, et on peut regarder les images avant et après avec les petites choses quand il a capturé une image. Et l'idée, c'est de mélanger ça avec la télévision, mais par le set-top box, mais avec un lien avec quelqu'un que je connais déjà. Et ça, c'est un projet fait par Carlo Grigio, qui est un ancien thésard de moi, qui a travaillé avec les réseaux sociaux. Il y a un gros problème pour les couples qui veut personnaliser leurs applications l'un avec l'autre. Mais le problème, c'est qu'ils ont plein de... Il y a un écosystème d'apps différentes. Ils ne peuvent pas partager des choses. Alors, l'idée, c'est de créer un clavier qui est dédié à eux. C'est un clavier soft partagé entre les deux personnes. Et avec ça, ils peuvent customiser leur style d'interaction et le partager.
Introducing Gearboard. A mobile keyboard that allows couples, best friends, and other close relationships to add co-customizations to any of their messaging apps. Gearboard allows two users to co-customize its color theme and shortcuts to shared emojis and GIFs so that changes made by one person can be seen by the other.
Alors, ça, c'est une partie
in a 5-week field study, participants co-customized Gearboard to express their shared interests, history, inside jokes, and knowledge of each other, pointing to opportunities for mediating intimacy through interface customizations.
Bon, ça c'est une partie de quelque chose qu'on fait avec quelque chose qui s'appelle le command board pour créer plein de choses avec un système qui est partageable entre plusieurs dispositifs. Mais je vais parler de ça la semaine prochaine. Alors, en résumé, pour la communication, on peut utiliser les médias différents, texte, voix, son, vidéo. Et il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Il y a intime, ça veut dire pour un père. Il y a familial, ça c'est un petit groupe. Il y a aussi les petits groupes au travail. Il y a des aspects professionnels. Et il y a plusieurs niveaux d'engagement et on va jouer avec ça. Alors, le problème, ce qu'on a, comme j'ai dit avant, c'est que tous les systèmes qu'on voit se ressemblent et ils sont vraiment liés avec les anciens systèmes d'augmenter un téléphone ou augmenter une réunion et on peut faire beaucoup mieux. Alors, maintenant, je parle un peu de la collaboration pour les gens qui travaillent ensemble sur quelque chose ensemble. Alors, on a encore une fois l'idée de faire quelque chose en même temps, même lieu, alors la chanteuse avec le pianiste. Et bon, il peut jouer avec elle, même si elle est à distance. On a besoin de technologie pour faire ça. Elle peut chanter et à temps et il peut jouer au piano. Et ça, c'est même lieu, mais temps différé. Et là, c'est temps différent, lieu différent. Elle chante, mais avec une technologie là qui était déjà enregistrée. On voit ça avec les chanteurs dans le roue. Il y a plein de choses. Alors, maintenant, on revient dans l'histoire. Et il y a Doug Engelbart, encore une fois. Et il a créé le système NLS Augment. Et il y a un système avec déjà la messagerie électronique, la vidéoconférence, partage de fichiers, les annotations personnelles, le partage d'écran et les télépointeurs. Il a inventé tout ça. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas un prototype juste pour le démo, mais c'est un système vraiment utilisé, je pense, dans le militaire aux États-Unis. Et ça, juste pour voir comment ça marche.
So I'm going to establish a collaborative mode between me and another terminal. So Bill, will you come in through this intercom?
Hello, Doug.
Hi. I'd like to have him see my text. So on his display, he sees my text, so I'll execute it. And sure enough, it does. But what's that running around? Well, if he's looking at my text, he'd like to have something to say about it. So we put on a marker, a tracking spot that he controls. So he's sitting there in Menlo Park looking at this text, and he can point to it. But we've carefully reserved for me the right to control and operate on this. So my bug is more powerful than yours. But we can have an argument. Yeah. That's what they call a bug fight. Now, computer, do the automatic switching that'll bring in a camera picture from the camera mounted on his console, such as the camera mounted on mine is.
Hi, Bill.
That's great. Now we're connected audio. You can see my work, you can point at it, and I can see your face, and we can talk. So let's do some collaborating.
Bon. Alors, ça, c'est en 1968. Et c'était un vrai système vraiment utilisé par des gens. Alors, si on regarde l'histoire, il y a peu de choses qui sont comme ça. Alors, il y a des choses en même temps, même lieu. Un système, on revient à Xerox PARC, ça c'est nos collègues à Xerox. Ils ont créé, on a vu cette live board et les écrans et les systèmes dédiés à toute cette ça. Ça c'est un système très cher. Et ils ont créé toute une série d'applications pour aider les gens à dessiner, faire des tableurs d'argumentation, il y a plein de choses. Et il y a des questions qu'ils ont regardées. S'il y a une congruence de vue, comment je sais ce que vous êtes en train de regarder? Si on est côte à côte, c'est assez facile de voir où vous êtes, mais si je suis à distance, il faut trouver un moyen de partager des choses. Il y a aussi congruence de l'espace d'affichage. Ça, c'est comment organiser les fenêtres et voir qui a quelle fenêtre, à quel moment. Congruence du moment de l'affichage, quand quelque chose a changé, est-ce que j'ai vu que c'était changé? Et aussi de sous-groupe, est-ce qu'il y a tout le monde regarde la même chose ou est-ce que le sous-groupe peut voir des choses? Et il y a cette idée de WYSIWYS, what you see is what I see, et ça c'est une congruence où tout le monde voit exactement la même chose. Et ça c'est impossible à dire, mais what you see is almost what I see. Et ça, c'est moi, je suis là et je regarde ici, vous regardez là, mais nous sommes dans le même document. Et on peut faire ça, par exemple, avec Google Docs aujourd'hui. Alors, on peut aussi regarder l'édition partagée. Ça, c'est un système par Skip Ellis et Simon Gibbs en 1989 qui s'appelle Grove. Et ça, c'est vraiment l'idée de mettre les images et le texte ensemble et de voir les modifications qui deviennent de plus en plus noires quand ils sont plus vieux. Et il y a aussi cette idée de nuages autour de parties de texte en cours de modification. Ça donne une idée de progression de l'activité d'édition pendant le système. Et voilà, il y a un système qui s'appelle VideoDraw, aussi à Xerox PARC. Ça, c'est un système où il utilise l'ombre de l'autre personne pour voir un peu ce que fait l'autre personne. Alors, on voit Il y a deux personnes côte à côte. Comment voir ce qui se passe quand ils sont ensemble? Ça marche très bien. Et il peut interagir. Et comment attraper cette façon d'interagir dans une manière naturelle, comme ça. Et voilà, on voit. Je pense que je vais... Ça, c'est à l'époque, on a fait des choses vraiment du style, il y a une caméra, la vidéo, la partie là. Alors, ce n'était pas facile. Maintenant, ce serait très facile de faire ce genre de choses. Je pense que je vais... Je pense que je vais arrêter parce qu'il y a, trop de vidéos à montrer. Alors, il y a aussi un système de Hiroshi Ishii qui a fait des images partagées comme ça. Et ça, c'est le système Video Whiteboard qui est aussi avec les écrans partagés. Alors, regarde, ça c'est un peu qu'on a vu avec Myron Kruger et Video Place. Il est en train de dessiner, mais l'autre personne est derrière. En fait, cette personne est distante, il n'est pas juste à l'autre côté. Mais ça crée des problèmes intéressants avec... Il peut voir ce qui est écrit, mais la question c'est inverse ou côté miroir ou inversé. Et c'est une casse-tête. Alors... Ishii revient avec quelque chose qui s'appelle Clearboard, et ça, c'est un système de dessin où on peut maintenant dessiner et on peut voir la personne comme ça. Alors, un système de miroir pour faire la caméra correctement, et la personne peut voir exactement ce qui est écrit. OK. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après... On dit, mais comment faire la collaboration en vidéo, mais quand on est dans une grande mur d'écran, ça veut dire beaucoup plus grande, c'est comme cette taille ici. Et le problème, c'est quand les gens sont côte à côte, ils peuvent faire des choses, mais quand ils sont dans la même salle, mais physiquement distants, il faut trouver les moyens pour interagir. Alors, ça, c'est un système qui s'appelle Camray, et il y a une série de caméras ici, ici, qui peut capturer l'image et les gens peuvent communiquer, ils peuvent interagir eux-mêmes. Et voilà, ça c'est en voie.
How can video support remote collaboration across wall size displays? With Camray, camera arrays record users' faces as they move. The resulting video appears on the remote display. But where should we display the video? In Follow Remote, the video follows the remote person's position. In Follow Local, the video follows the local person's position. We found that Follow Remote best supports deictic gestures and increases data manipulation efficiency.
Alors l'idée, c'est comment gérer cet espace, même quand ils sont ensemble, et on travaille avec un grand espace, et aussi comment le faire à distance. Alors on peut aussi travailler avec les temps différés et le... et les lieux différés.
WebStraits transparently persist and synchronize changes to any page called the WebStrait served from the WebStrait server between clients of the same page. Through transclusion using iframes, we can get a document application-like relationship between two WebStraits. This allows two or more users to collaborate on the same document with different editors or to have different views or editors on different devices. Document. The malleability of WebStraits allows collaborative editing and extension of user interfaces at runtime.
Un téléphone portable, et tout est fait ensemble. Alors, c'est l'opposé de maintenant, par exemple, pour faire un Google Doc partagé, il faut que moi, je viens en Google Doc et je dois utiliser leur interface. Mais là, on voit qu'il y a une interface un peu WYSIWYG, une interface un peu programmation, et on peut utiliser n'importe quel style d'éditeur pour interagir avec le même document. Alors, il s'appelle un substrat web avec tout le système théorique derrière que Michel Baudouin-Lafont a parlé dans le 12e leçon. Et l'idée, c'est que tout le contenu est partagé. Il n'y a pas une distinction entre une application et un document. On a juste une collection d'outils pour interagir avec le document partagé. Et collaboration partage et distribution sur tous les appareils possibles. Alors, il y a aussi un concept, il a parlé de transclusion. L'idée là, c'est n'importe quel document peut être inclus et utilisé dans une manière interactive en n'importe quel autre document et ça reste éditable. Alors, on a augmenté ce système. Ça, c'est un système par Clemens Clockmose, notre collègue, il était en postdoc avec nous et maintenant il est avec ses collègues au Danemark et on continue à travailler ensemble. Et ça, c'est un système pour faire la vidéo collaborative et je vais juste montrer la vidéo. C'est évaluation de... On a Alice, elle est programmeur, il n'est pas. Ils sont en train de faire une vidéo ensemble et l'idée, c'est chaque dispositif est bien connecté ensemble. Il peut travailler ensemble sur... elle va faire des choses, il va ajouter des choses, chacun fait ça et tout est dans le même système. Et c'est en temps réel. Et là, il veut maintenant faire les sous-titres. Et il veut juste travailler avec un éditeur de texte qui est lié avec faire les sous-titres. Elle peut continuer à faire des autres choses ou faire quelque chose de plus complexe. Elle peut programmer. Et tout le monde peut travailler avec leur niveau d'expertise, leurs outils à eux, dans le même système. Voilà. Alors, on a utilisé ce système pour créer quelque chose qui s'appelle Video Clipper. Et ça, c'est un storyboard. C'est une série de cartes titres qui expliquent une histoire avec la vidéo. Et c'était pendant la pandémie. Et la semaine dernière, j'ai montré le système Sonami. C'était par Kate. Elle est là, Kate. Et elle a créé ce système avec l'aide des autres membres d'équipe. Et on a utilisé ce système où chaque personne peut intégrer leur vidéo dans le même système pour faire un prototype vidéo qui explique l'idée et faire du brainstorming. Et on a aussi créé un système pour faire le partage de mood board. Ça, c'est un système de marketing pour créer les images et regarder le thème d'un système. Et là, on a créé un espace partager un espace personnel et l'idée c'est de fluidement créer des systèmes avec une partie partagée et personnelle. Et voilà, si on fait un petit résumé de la collaboration, le problème c'est qu'on a besoin de la fonctionnalité, mais c'est lié maintenant avec. C'est pas une partie fondamentale dans les systèmes comme le copier-coller. Et il faut maintenant pas très beaucoup faciliter de faire les ils sont pas très interopérables entre Word par exemple et Google Docs et Pages et des autres choses. Alors dernière chose, collaboration, comment coordonner des activités et je vais vite faire. Dans le même temps, même lieu, on peut coordonner les gestes et là c'est un système qui s'appelle CoReach avec un autre étudiants dans notre groupe. Et l'idée, c'est de faire les gestes de collaboration pour aider les gens dans un grand espace de partager ce qui se passe. C'est partager les objets, capturer quelque chose, jeter à quelqu'un, créer un groupe de choses et donner le groupe temporairement à l'autre personne et aussi interagir avec une tablette pour jeter et capturer des choses. Alors, regardez les choses, c'est en même espace, mais on travaille comme c'est à distance. Et là, c'est quelque chose, ça c'est encore nos collègues avec Video Streets et tout ça au Danemark, ça c'est Jens Mille Grunbach. Et là, c'est un système qui s'appelle Mirror Blender qui aide à l'insertion des vidéos dans les réunions physique et partagé. Alors ça, c'est les réunions hybrides. En fait, ça marche très bien. On peut faire des choses translucides, on peut créer, on peut choisir. Les gestes marchent. Je peux voir si c'est en haut ou en bas, je sais où je suis. Et tout le monde peut comprendre où ils sont en même temps, dans le monde spécifique. Voilà. Alors, il y a aussi la coordination à temps différé. Ça, c'est un ancien système que j'ai fait quand j'étais à MIT avec Tom Malone. L'idée, c'est de créer des règles pour gérer les messages. Il y a toute une histoire de faire avec ça, mais je suis un peu en retard, alors je vais sauter et parler du fait qu'il y a beaucoup de systèmes qui aident au workflow, qui gèrent les tâches des autres personnes. Et le problème, c'est tout est fait dans une manière assez rigide. Et le problème, c'est que chaque personne doit être conformée dans la machine ici. Et ce n'est pas fluide dans le moyen qu'on voit dans le monde réel. Je vais sauter là. La dernière chose, je vais montrer un système qu'on a créé pour créer et gérer les réseaux intimes. On a créé un système tangible qui s'appelle FamilyNet. Et c'est les cartes avec les tags RFID, mais n'importe quelle technologie peut marcher. Et l'idée, c'est qu'on crée le lien avec la proximité. On crée les cartes, toutes les cartes rouges sont déjà dans une famille ensemble, et c'est l'échange physique des cartes. Et après, on peut utiliser les cartes pour créer les réseaux. Ça, ce n'est pas connecté, ça, c'est connecté live en direct. Et là, on peut voir qu'on peut avoir plusieurs groupes. Par exemple, il y a un groupe rouge, et ça, c'est le groupe rouge. Et aussi, il y a un deuxième groupe vert, et ils sont connectés séparément. Et de côté utilisateur, c'est très simple à comprendre. Quand la carte est là et je suis dans cette groupe, elle est là, et quand elle n'est pas là, elle s'arrête. Et bon, il y a toute une série de choses pour comment faire ça. Il y a ce qu'on appelle l'encryption clé publique, et bon, ça marche. Et dernière chose, c'est on a créé aussi cette idée d'utiliser cette tangibilité pour créer la gestion des vidéos. Ça, c'est un système de montage dans la maison de ce groupe d'artistes qui utilise les tags associés avec chaque strip pour gérer la vidéo de communication. Et je vois, ça, c'est, on a fait une installation dans une conférence et on voit qu'il y a un détecteur de tags, on peut capturer des choses, il peut créer un vidéo, jouer un vidéo, il peut mettre un vidéo dans chaque objet, il peut créer les réseaux. Et c'est assez simple, c'est juste en le mettre, ça commence, il regarde et il voit que la connexion est faite. Voilà. Alors ça, c'est un autre moyen pour gérer des choses. Et on a utilisé le même système pour ce petit Anna qui a fait un système comme le Mirror Video Probe, mais pour créer ses propres histoires avec ses marionnettes et ses poupées pour créer la vidéo et partager avec sa meilleure copine. Alors, en résumé, nous sommes les animaux sociaux. Les interfaces doivent faciliter la communication, la collaboration et la coordination, bien sûr. Mais en conclusion, la plupart des applications maintenant sont conçues pour les usages individuels et pas toutes les activités collectives, sauf il y a quelques trucs bien dédiés avec les anciens modèles. Et il faut créer les modes de communication qui sont divers et variés, qui évoluent pendant le cours d'une activité et aussi que les interfaces doivent intégrer cette dimension collective pour permettre de passer facilement entre un mode et un autre. Alors, je vais arrêter là. See you next.